Chapitre 5. Célanie était entrée chez Soupardin exaspérée, elle sortit indignée. Comment ? Il voulait spéculer sur le malheur de cette pauvre Marichette pour engager avec le corsaire une négociation qui donnerait des résultats rémunérateurs ? C'était pour lui qu'il espérait ces résultats, pour lui mandataire. Était-il rien de plus misérable ? Qu'elle voulût se servir du malheur de Marichette pour se venger du corsaire et assurer l'héritage de celui-ci à ses enfants, rien n'était plus naturel, comme rien n'était plus juste. En somme, c'était des affaires de famille. Mais que ce vieux coquin de Soupardin cherchât à exploiter cette situation, c'était honteux. Marichette n'était pas sa parente, et qu'il profitât de ce qu'on venait de lui demander conseil pour tirer la couverture à lui, c'était révoltant. Voilà pourquoi il trouvait tant de bonnes raisons pour ne pas vouloir envoyer le corsaire devant la cour d'assises. Pas productif pour lui, le procès au criminel. Tandis qu'une bonne négociation, conduite par un homme prudent, une bonne menace de chantage habilement exploitée, c'était bien différent. Avait-il assez adroitement tiré parti de la situation, le vieux chacal, et filé sa scène pour arriver à sa proposition de négociation dans l'intérêt de la jeune personne ? Si exaspérée que fût Célanie, elle ne perdait cependant jamais le sens du juste. Malgré sa colère, elle reconnut l'habileté du vieux chacal. Évidemment, son moyen aurait été excellent s'il s'était appliqué à un autre homme que le corsaire, et si le but qu'elle se proposait elle-même n'avait été que l'intérêt de la jeune personne. Elle avait la prétention, fondée d'ailleurs, de connaître le corsaire mieux que qui que ce fût, et il était bien certain que l'homme dont elle avait étudié le caractère et la nature, en les tournant et les retournant dans tous les sens, il était bien certain, pour elle, que cet homme ne céderait jamais à un chantage, si habilement exercé qu'il pût être. Par peur, ou plutôt par prudence, il pourrait renoncer à une entreprise dans laquelle il verrait plus de danger que d'avantage. Ainsi, il pourrait abandonner Marichette. Mais jamais on ne l'amènerait par peur à faire un grand sacrifice d'argent, ce que Soupardin appelait un résultat rémunérateur. Et puis, c'était bien de ce sacrifice d'argent qu'elle avait souci, vraiment. À qui profiterait-il ce sacrifice ? À la jeune personne, non à elle ni à ses enfants. Sur quelle fortune serait-il pris ? Sur celle qui devait lui revenir un jour, à elle et à ses enfants. Et ce serait pour que cette fortune fût diminuée, ce serait pour qu'elle profitât à Marichette, qu'elle renoncerait au procès criminel ? Ah non ! Mille fois non ! C'était en retournant chez elle qu'elle agitait ses pensées, non la tête perdue comme elle avait dit à Soupardin, mais méthodiquement, avec attention et pénétration. Elle se trouva devant sa maison et elle continua son chemin pour gagner la grève où personne ne la troublerait et où elle pourrait arrêter en paix le parti qu'elle devait prendre. Que le procès criminel ne dût pas aboutir à une condamnation, elle l'admettait, se rendant aux raisons de Soupardin. Mais devait-il pour cela être abandonné ? Certainement, la condamnation du corsaire aux travaux forcés lui serait douce. Quelle vengeance pour elle ! Quel triomphe de l'accabler et de lui montrer la main qu'il avait abattue, lui si haut placé et si fier ! Mais de ce que la condamnation n'était pas probable, il n'en résultait pas que le procès ne fût point possible. Avant que le corsaire fût acquitté, que d'humiliation pour lui dans ce procès ! Il faudrait bien qu'il les écoutât, les témoins qui viendraient déposer sur sa moralité, et tout le monde lirait ses dépositions dans les journaux. Pourquoi aurait-il épargné cette jeune fille quand il en avait mis tant d'autres à mal ? Se relèverait-il jamais de ce coup ? Sans doute, il ne serait pas atteint dans sa fortune, et pour elle, c'était une satisfaction de le croire. Mais pour son ambition, quelle chute ! Il faudrait qu'il donnât sa démission de maire, et alors, tous les gens qu'il dominait ou qu'il terrorisait se lèveraient contre lui. Ce serait un effondrement. Sa vie politique serait finie. Lui qui voulait être tout ne serait rien, moins que rien, un vaincu, un méprisé, un homme dont on pourrait se moquer, qu'on pourrait mortifier, injurier, bafouer, sans qu'il eût le droit de s'en fâcher. Plus de chapeau bas, plus d'échine courbée devant Monsieur le maire. ce serait à lui de saluer le premier, et encore, devrait-il avoir la précaution d'étudier si celui à qui il voulait adresser son salut le lui rendrait. Et ce qu'il y avait de bon encore dans ce procès, alors même qu'il aboutirait à un acquittement, c'était que le corsaire garderait dans son cœur une haine féroce contre celle qu'il aurait amenée sur les bancs de la cour d'assises. Sur ce point encore, il avait eu la finesse, ce vieux chacal de Soupardin, de remarquer qu'au cas où Marichette serait enceinte, ce qui était possible, tout procès civil ou criminel aurait pour résultat de faire déshériter son enfant. Cela était certain. Jamais Simon Belloc ne laisserait sa fortune à l'enfant d'une femme qu'il avait fait asseoir entre deux gendarmes et qu'il aurait déshonorée. Et alors, il faudrait bien qu'il la laissât, cette fortune, à ses autres parents, c'est-à-dire aux enfants de son cousin Sylvain, contre lesquels il n'aurait pas les mêmes griefs. À la vérité, pour que cela arrivât, il devrait faire un testament, ce qu'elle n'avait pas cru possible jusqu'à ce jour. Mais les circonstances ne seraient plus les mêmes. Ce testament, auquel il ne devait pas penser présentement, croyait-elle, s'imposerait le jour où il saurait que Marichette, ou l'enfant de Marichette, devait hériter de lui. La haine et la vengeance lui feraient faire ce que l'indifférence d'un homme qui ne croit pas à sa mort lui aurait laissé oublier. Il fallait donc que le procès se fît, et elle le ferait, mais prudemment, c'est-à-dire qu'elle s'arrangerait pour que le conseil de famille le décidât. Sans doute, elle se priverait ainsi du bonheur de montrer au corsaire le bras qu'il avait frappé. Mais c'était un sacrifice qu'elle devait à ses enfants et que la fortune qu'il leur assurerait paierait bien. Et puis, ce ne sont pas les triomphes les plus brillants qui donnent les joies les plus grandes. Elle aurait sa conscience pour elle et, au fond du cœur, la fière satisfaction du devoir accompli. Si elle avait voulu intenter le procès criminel franchement, la marche à suivre eût été fort simple. Il n'y aurait eu qu'à faire écrire une plainte par Marichette ou l'écrire soi-même et l'envoyer au parquet. La justice, avec son cortège de médecins, de magistrats, de gendarmes, eût mené la danse. Mais puisqu'elle ne voulait pas se mettre en avant, il n'était pas possible de procéder ainsi et il fallait prendre un chemin détourné qui lui permettrait de rester à couvert. Marichette s'étant sauvée de chez son tuteur, le subrogé tuteur était obligé par la loi d'intervenir. Pour cela, il provoquait la réunion du conseil de famille, à laquelle, bien entendu, on convoquait le corsaire. Dans cette réunion, un des membres du conseil, qu'on avait vu à l'avance et qu'on avait instruit de ce qui s'était passé, demandait tout naturellement les causes de cette fuite, et tout naturellement aussi, par la seule force de la vérité, le procès s'imposait. À qui la chute ? Au conseil de famille, c'est-à-dire à la loi. Mais pour que les choses puissent s'arranger ainsi, elle avait besoin du concours de son mari, puisqu'elle n'avait pas elle-même qualité, malheureusement, pour provoquer la réunion du conseil de famille. Il allait gémir, le mot lasse, sans caractère et sans consistance, soupirer, se désoler, et déjà elle l'entendait crier « Mon cousin ! Marichette !» Car il avait la religion de la famille, le pauvre homme, non comme elle, qui, dans la famille, ne voyait que ses enfants, ses petits, pour lesquels elle était prête à tout faire, mais de ses parents, quels qu'ils fussent, comme il avait aussi celle de la terre natale, dont il parlait sans cesse, avec le désir d'aller mourir dans son Béarn. Mais elle n'admit pas une seconde qu'elle ne vînt pas à bout facilement de cette sentimentalité bête. Il serait curieux, vraiment, qu'il se permît de lui résister, lui qui ne savait vouloir en rien ni pour rien, s'en remettant toujours à elle, lorsqu'il y avait une résolution, difficile ou aventureuse, à prendre. Présentement, il y en avait une, grave il est vrai, mais pas plus grave que d'autres, qu'elle lui avait inspirée, et elle la prenait. À lui d'obéir et d'exécuter ce que son énergie féminine avait conçu. À elle la responsabilité. Et, d'avance, elle savait qu'elle la porterait légèrement. Ce Simon n'était-il pas un monstre ? Il s'était conduit avec cette pauvre fille comme un misérable. Ce n'était pas lui, le scélérat, qui avait la religion de la famille. Quant à Marichette, c'était une idiote qui, par sa bêtise, avait mérité son malheur. Avait-on idée d'une niaiserie pareille ? On se donnait la peine de l'avertir, et parce qu'il frappait à sa porte, à minuit, dans une maison déserte, au milieu d'une tempête, quand personne ne pouvait venir à son secours, elle ouvrait, parce qu'elle croyait qu'il avait besoin d'elle. Elle eût cherché ce qui était arrivé, qu'elle n'eût pas agi autrement. En voilà une qui ne méritait ni sympathie ni pitié. D'ailleurs, quand une mère travaille pour ses enfants, elle ne se laisse pas arrêter par une pitié vague. Elle ne pense qu'à ses enfants et ne voit qu'eux. C'était son cas. Et d'un pas délibéré, elle rentra chez elle. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait que ce jour-là même, le conseil de famille fût saisi. Mais, lorsqu'elle fit part de son projet à son mari, elle rencontra une résistance sur laquelle elle n'avait pas compté. Que s'était-il donc passé ?